C'est peut-être utile donc de dire que le PSU est né en 1960 avec une... il s'appelle Parti Socialiste Unifié, ce qui paraît bizarre étant donné la bagarre de tendance qu'il y a eu, mais parce qu'il regroupait des gens qui avaient quitté la SFIO, déshonorée par la guerre d'Algérie, le paquet essentiel, des gens venant du Parti communiste qui avaient compris ce qu'était le stalinisme, des leaders des proches de Trotsky, en petite minorité, et surtout un paquet important de chrétiens venus à la politique depuis le sillon et essentiellement fournissant la base ouvrière du PSU. Il y a la base ouvrière formée de chrétiens, par ailleurs membres de la CGT, donnait une quatrième composante. Donc le ciment jusqu'en 62 de cette agglomération a été la lutte pour la paix avec l'Algérie. Mais en 62, s'est posé le problème de l'identité de ce parti.
Guy Philippon est né en 1927. Son histoire politique traverse le PSU, dont il a été un dirigeant, et les Verts qu'il a rejoints en 1998. Cette histoire commune à de nombreux écologistes est l'une des racines du mouvement des Verts.
Dans la période de la guerre d'Algérie, j'ai été au bureau parisien du PSU, avec comme secrétaire de Paris, Marc Urgon, qui est en fait un personnage qui était l'imminence grise de 68, qui a joué un rôle que peu d'historiens signalent, j'ai vu dans un bouquin là, récemment, mais c'est tout. C'est lui qui contrôlait, en fait, manipulait, on pourrait dire, pour être méchant, l'UNEF, et qui imposait en partie, qui a imposé à cette époque la ligne du PSU, à Rocard, c'était dans le bureau national. Bon. Dans ce bureau de 60, la guerre d'Algérie, donc j'étais trésorier et Rocard était responsable à la formation. Ensuite, j'ai été à plusieurs reprises dans le bureau parisien et j'ai été secrétaire de section dans le 20e pendant des années, PSU et RF ensuite. Et j'ai donc côtoyé de très près Rocard dans cette période de l'avant 68 où on menait une bataille politique dure. J'ai fait partie un peu du petit groupe qui réfléchissait à la tactique pour s'opposer aux gens qui voulaient en fait rejoindre la FGDS de Mitterrand. En 62, s'est posé le problème de l'identité de ce parti. Donc là, on retrouve une bataille d'une violence extraordinaire sur l'autonomie du PSU par rapport aux deux forces classiques de la gauche, le PC et le PS, avec une partie de gens disant il faut qu'on serve de courtier entre les deux pour les ramener à travailler ensemble, qui étaient vraiment ils étaient en une opposition totale, et une autre partie majoritaire pratiquement, mais pas toujours fortement, se battant pour l'autonomie du PSU et avec son originalité, avec l'espoir que portaient des gens comme Rocard et d'autres, de dire finalement, historiquement, c'est nous qui allons remplacer les deux autres forces. Ce qui ne s'est pas produit, évidemment. Mais dans cette recherche d'identité, s'est trouvé posé très vite, avec d'ailleurs l'origine de la partie chrétienne du mouvement. La Confédération syndicale du cadre vie qui existe toujours est une création de cette mouvance. Donc, se sont posés assez vite sur l'identité des problèmes concernant ce qu'on appelait le cadre de vie. Et dans le cadre de vie, sur le logement, la consommation, on retrouve des thèmes qui reviendront après, qui sont déjà comme une ébauche de l'écologie politique. On retrouve aussi la vision internationale de solidarité avec les différents pays du tiers-monde, c'est le terme qu'on employait à l'époque. Donc déjà, et il y a aussi toute une réflexion, mais là qui est, oui, je ne sais pas si on la retrouve vraiment chez les Verts, sur, si quand même, qui est très, déjà un prémisse, c'est que des intellectuels de l'époque, Serge Mallet et d'autres, réfléchissent sur la nature nouvelle de la paysannerie. C'est là au niveau théorique et au niveau pratique, avec la construction des paysans-travailleurs, que est l'ébauche de la Confédération paysanne actuelle. C'est là qu'on analyse les nouvelles classes sociales, en disant, bon, par rapport aux marxistes classiques, les ouvriers de cette époque ne sont plus tous dans des usines d'automobiles ou des mines de charbon. Commence à apparaître, pas l'informatique, mais l'aéronautique. Donc il y a une nouvelle couche de classe ouvrière qu'il faut analyser. Et le PSU, sans venir, avec une conférence ouvrière de janvier 68, les événements de mai 68, il a, avec des batailles dures par rapport aux trotskistes, il est hégémonique dans l'UNEF, donc il jouera un rôle déterminant à travers l'UNEF de 68 et à travers la CFDT à tous les niveaux. Les cadres, y compris au niveau national, étaient souvent en même temps membres du PSU. Donc, en 68, le PSU double ses effectifs et se retrouve à l'aise dans les mouvements de... parce qu'il s'est retrouvé tout à fait à l'aise dans les mouvements de 68. Le mot écologiste n'a jamais été prononcé. On a eu conscience très vite d'être, comment dire, dans l'originalité par rapport aux forces de la gauche classique et sur ce qu'on appelait le cadre de vie. Ce qui était en fait l'écologie, nous on l'appelait le cadre de vie. On n'avait pas... Le mot écologiste, je pense qu'on l'a... Et même dans la période où on a fait une alliance au nom du Front autogestionnaire, je ne sais pas si... Il faudrait retrouver des documents de l'époque, si même les environnementalistes qui faisaient alliance avec nous, ils devaient employer le mot écologie. Les amis de la Terre, je ne suis pas sûr qu'ils employaient le mot écologie. Ce serait une chose historique à regarder. On avait l'impression d'être d'être novateur sur ces terrains-là, d'être en opposition ou d'être quand même originaux par rapport aux forces classiques en tout cas. Mais le terme écologie, à ma connaissance, n'apparaissait jamais. Alors, dans cette époque, et là on rejoint l'époque du... on rejoint les Verts, à cette époque, des dirigeants actuels des Verts sont dans différentes sensibilités, des gens qui sont maintenant connus, comme Lipietz et Gilles Lemaire, sont dans la mouvance maoïste du PSU. Il y a d'autres personnes qui se retrouvent ensuite chez les Verts, qui sont dans d'autres sensibilités. Et donc, à partir de là, les Verts, je pense, le PSU, je pense, connaîtra assez mal le mouvement naissant des Verts quand il se produira, parce que c'était une force beaucoup plus importante que les petits groupes. Il y a une chose qui, au point de vue historique, qui n'est pas négligeable. Lalonde a été membre du PSU et il a été un des fondateurs des Amis de la Terre. Donc les liens entre le PSU et les Amis de la Terre dès cette époque sont nets. Lalonde se fera exclure du PSU parce qu'il sera candidat dans le 5e contre le candidat désigné par les militants du PSU, Victor Leduc. Et donc, mais les liens avec à part le lien avec les Amis de la Terre, dans la période où les groupes verts commencent à se constituer, les liens sont difficiles, sauf à une occasion. Il y aura je crois que c'est la période du Front autogestionnaire, où il y aura, à travers la notion d'autogestion, des listes communes entre le PSU et des groupuscules. Vraiment, c'était des groupuscules écologiques. Dans le 20e, on a eu des élections avec deux circonscriptions. Il y a deux circonscriptions dans le 20e. Et le PSU avait entre 80 et 100 adhérents, et les écologistes de l'époque, je pense, je ne crois pas que c'était encore le Parti Vert, étaient 3 ou 4. On avait fait une liste, des listes communes, avec un titulaire, un suppléant, alternativement PSU et écologiste, dans les 2 circonscriptions. Donc, dès cette époque, mais il y a eu ensuite, dans la période, pour prendre au niveau historique de Wechter, une réticence forte, parce que le PSU s'était toujours inscrit dans la gauche, se désistant systématiquement au profit du candidat, pratiquant le désistement démocratique, et les rapports avec les Verts parisiens, puisque moi j'étais à Paris à cette époque, étaient très tendus, très difficiles, et ce qui a, pour faire sur le plan personnel, un peu un processus historique, mais qui n'est pas que personnel, les rapprochements se sont faits quand même plus sérieux à partir du moment où Voynet a pris le secrétariat général des Verts, et il y a eu une coalition, comme peut-être tout le monde ne le sait pas, pour soutenir la première candidature de Dominique Voynet à la présidentielle, avec non plus le PSU, mais la Rêve, l'alternative rouge et verte, qui était la continuation du PSU, des gens venus du Parti communiste sous le nom de la CAP, la Convention pour une alternative progressiste, et à cette époque, on peut dire qu'a même été envisagée une refondation, pour reprendre un terme d'actualité, avec des statuts qui permettraient d'intégrer des forces issues du PSU, issues du Parti communiste et rénovateur. Ça, à mon avis, capoté pour 2 raisons, avec une hostilité de Cochet qui ne voyait très mal la venue de gens issus du Parti communiste, et inversement, de l'autre côté, l'hostilité à tout ce qui était de couleur verte d'un dirigeant issu du trotskisme dans l'alternative rouge et verte qui s'appelle Michel Fian. Donc voilà. Et donc la campagne la première campagne présidentielle de Dominique Voynet a quand même soudé les gens issus de ces mouvements, ce qui a fait qu'en 1998, sont entrés collectivement chez les Verts, d'une part les proches de Noël Mamère, tout un groupe proche de Noël Mamère, le janvier 98, en même temps, donc, une minorité des gens issus du PSU, avec Jean-Pierre Lemaire, Didier Claude était rentré un peu avant, issu de la même mouvance. Et troisième partie, une partie aussi de la mouvance issue du PC, je ne sais plus comment ça s'appelait, issue de la CAP finalement. Donc voilà, donc sur le fond, le PSU, pour montrer la filiation sur le fond, dès avant 68, le PSU a mené une bagarre violente contre le nucléaire, surtout le nucléaire militaire, avec Claude Bourdet, qui avait créé un mouvement indépendant de celui du PC, très lié à l'URSS, sur la critique de la force de frappe, mais aussi déjà un peu sur le nucléaire civil. Il y a eu une manifestation où le PSU a été très présent contre la centrale nucléaire de Nogent sur Marne, ou sur Seine, je crois, qui existe encore. Le travail les transports a commencé les transports en commun, a commencé, je me souviens, dès l'après 68. On a fait des débats, je me souviens d'un débat que j'ai fait dans le 20e avec les différentes forces politiques sur l'automobile. C'était quelque chose qui n'était pas quand même très classique à l'époque. Et on a mené des actions sur les transports collectifs en années 70, je crois bien, avec lutte ouvrière. C'était assez ahurissant de voir sous une direction de Michel Rocard, une alliance au moins à niveau Paris sur des municipales en 71 a pu avoir lieu entre le PSU et lutte ouvrière. Lutte ouvrière n'était pas dans l'optique qui a été la sienne par la suite. Et ça faisait suite à toute une campagne importante sur les transports en commun, pour laquelle on a un certain nombre d'affiches sérigraphiées. En même temps, c'était aussi une bataille sur la rénovation urbaine, sur le fait qu'on était en train d'expulser de Paris les couches les plus populaires. Et cette liste dans le 20e, à la surprise du PC, qui était ultra dominant à l'époque, avait fait plus de 9%. Donc, sur un certain nombre de thèmes qui touchent à l'environnement et au féminisme aussi, il y a eu dès cette période des liens communs. Ce qui faisait notre réticence par rapport les gens du PSU qui auraient pu venir chez les Verts, la réticence était celle de voir d'un parti que nous percevions comme uniquement environnementaliste et refusant de s'occuper des questions sociales, ce qui était en partie faux, mais c'était la vision extérieure. Et la rencontre avec des militants verts dans le 20e, pour prendre un exemple tout à fait local, à cette occasion de la première candidature présidentielle de Dominique Voynet, nous nous sommes retrouvés, les gens du PSU, avec un groupe où se retrouvaient deux personnes qui après ont joué un rôle important chez les Verts, Martine Billard et Denis Baupin, et on a découvert que le Parti Vert n'était pas seulement un parti environnementaliste, mais s'inscrivait dans une dynamique sociale, posait le problème de l'immigration, et ce qui a fait que notre entrée dans le PS, chez les Verts en 98 a été plus logique et a fait qu'on n'a pas hésité, on avait levé des inquiétudes qu'on avait par rapport aux Verts. Et ce qui est assez ahurissant, c'est que moi qui connais pas encore vraiment tout le monde chez les Verts, je suis stupéfait de voir quand il y a des journées d'été ou des AG, parmi les gens qui ont évidemment connu cette époque, le nombre important de gens qui sont passés par le PSU. Je pense que dans ces générations-là, c'est sans doute de l'ordre de 10 à 20% des Verts de cette époque-là, et même peut-être plus, avec y compris des gens qui sont dans différentes sensibilités actuellement des Verts. Alors, je pense que Piets et Gilles Lemaire se sont fait exclure du PSU en 72, je crois que c'est en 72. En réalité, c'est plus compliqué que ça. Leur groupe maoïste avait une implantation forte en Île-de-France. Ils avaient quasiment, je pense, la majorité dans la région Île-de-France. Et ils menaient une politique en contradiction totale avec les visions du PSU, entre autres, contre tous les syndicats, y compris la CFDT, qui était à cette époque quand même très en phase avec le PSU, pour créer des syndicats rouges. Et donc, il y a eu une dissolution de la Fédération de Paris avec demande de réadhésion sur les bases du Congrès. Et ils ont refusé de réadhérer, donc ils ont été de fait exclus, quoi. Donc, ils ont créé ensuite la GOP, Gauche ouvrière et paysanne, qui regroupait des gens venus de révolution, du mouvement de type trotskiste, qui a joué un rôle important dans le Larzac, et avec des gens qui ont rejoint plus ou moins vite les Verts. Et Gilles Lemaire, après la GOP, est passé, il le dit lui-même, par le Parti Socialiste. Il a écrit dès cette époque des livres extrêmement intéressants sur l'économie. Je ne sais pas comment il se situait dans cette mouvance. Ce n'était pas lui, ce n'était pas un leader, ce n'était pas un des leaders, comment dire, reconnus de ses sensibilités, ni l'un ni l'autre, ni Lipietz, ni Gilles Lemaire. Ils étaient, je pense, ils étaient dans ses sensibilités, mais sans en être les animateurs principaux. Le PSU, donc, a connu des périodes de gloire à la Fondation. Il avait sans doute pas loin de 15 000 adhérents. Puis, avec les bagarres d'une violence extraordinaire, de cette tendance, on parle beaucoup des tendances des Verts, mais dans cette époque, le monde, qui n'aimait pas spécialement le PSU, l'a démolissé en disant le parti des sept tendances. En réalité, il y avait deux orientations qui se bagarraient fortement. Mais donc, il a repris un essor énorme en 68, mais la digestion de tout le flux de nouveaux adhérents sur des bases, quand même, a été compliquée. Le départ du courant de la GOP, disons, GOP et GR, GOP et gauche révolutionnaire, a fait une saignée, y compris dans la base ouvrière et paysanne, parce qu'ils étaient implantés dans ces milieux radicalisés, donc qui a affaibli le PSU. Ensuite, en 1974, le départ de Rocard au Parti Socialiste a aussi provoqué une nouvelle saignée, à mon avis, pas aussi importante qu'on peut le penser. À ce moment-là, le PSU a retrouvé des gens venant de mouvements trotskistes ou communistes rénovateurs et a présenté Huguette Bouchardot à la présidentielle, qui a été ministre de l'Environnement. Et c'est je pense que les gens reconnaissent que ça a été sans doute une très bonne ministre de l'Environnement. Puis le PSU a décliné au niveau des effectifs. Il a finalement été dissous en 90, donc il a vécu 30 ans. Il a donné suite à l'Alternative Rouge et Verte, qui a plus tard changé de nom et qui s'appelle maintenant les Alternatifs. Voilà, donc il est mort en 90 officiellement. Un groupe autour de Didier Claude Rode avait trouvé que la REV, comme le PSU, est devenu un groupe extrêmement militant et sur le plan des idées très à la fois écologiques, sociales, comme l'indique le terme de son journal Rouge et Vert, mais ne pesait plus que 600 ou 700 personnes, alors que les Verts étaient une force numérique et électorale sans comparaison. D'ailleurs, on sous-estimait, on surestimait, des gens comme moi, on pensait que les Verts étaient bien plus nombreux qu'ils ne l'étaient en réalité. Mais leurs résultats électoraux avaient été infiniment plus brillants. Donc l'efficacité politique pour porter nos idées a été de se dire, bon, ben, si on veut vraiment peser, faire avancer les choses, il faut peut-être rejoindre une formation politique plus importante qui, après tout, est quand même très proche de ce qu'on pense. Pour moi, je n'ai pas... vraiment, je sens une continuité totale entre la ligne politique qui a été celle que j'ai suivie et pratiquée au PSU et ce que j'ai trouvé ensuite chez les Verts. La composition sociale est à peu près les mêmes, avec une lacune au moins pour ce que j'en connais des Verts, c'est que le PSU avait une base ouvrière réelle. Il a eu, je pense, 3000 adhérents ouvriers. Dans le 20e, on avait une dizaine de véritables ouvriers, et ça manque chez les Verts. Je sais bien que Paris, actuellement, a beaucoup perdu sa population ouvrière, mais je pense que cette Donc, si tu veux, c'est une raison d'efficacité politique. Et d'autre part, ce qui joue toujours, les relations humaines qui ont été tissées à l'occasion des campagnes présidentielles, ça joue pour que les gens se décident à entrer dans un mouvement. Rencontrer des gens avec qui on a des affinités et avec qui les rapports sont simples, ça, c'est quelque chose qui pèse aussi. Alors qu'avant, pour nous, les Verts étaient quand même un mouvement un peu bizarre de gens qui défendaient uniquement les oiseaux et les petites fleurs. Quand on a mené la campagne commune en 1995 avec la première campagne de Voynet et qu'on a travaillé en commun avec les gens des Verts, en étant encore à la Rêve, l'alternative rouge et verte. Par rapport à cette campagne, on a eu des autocollants de la Rêve qui présentaient la candidature, qui se réclamait de la gauche. Et je me souviens, ça nous avait assez étonnés, il y a eu comment dire, à la fois de la part de Denis Baupin et de Martine Billard, une réticence à dire qu'on était de gauche. Il y avait la volonté très claire qui, je pense, existe toujours chez les Verts, de dire il y a la gauche et la droite et les écologistes, de se présenter comme une force autre que celle des forces classiques. Alors, c'est assez étonnant parce que, quelque part, c'est aussi toute l'histoire du PSU qui s'est construite, on peut dire, contre le Parti Socialiste, SFIO de l'époque, et le PS même après, et entre autres sur le programme commun, qui s'est battu contre le programme commun amenant Mitterrand au pouvoir, et contre le PC aussi. La violence du PC contre le PSU est assez extraordinaire. Jusque dans les années 71-72, le PC était la force ultra-dominante et on peut dire que au niveau militant, le Parti socialiste était, jusqu'à ce que Mitterrand le remettre à flot, était inexistant. Et donc, pour prendre un exemple de notre quartier du 20e, les deux seules forces militantes étaient le PC et le PSU, avec une bataille violente, parfois même dans des manifestations, des affrontements physiques. Donc, on était un peu surpris de cette volonté de ne pas se dire de gauche. On s'opposait même durement à la gauche classique, on s'est opposé à la gauche classique en 68 avec le mouvement de mai 68. L'opposition avec le PC a été vraiment extrêmement violente. Le PC n'avait pas envie que le mouvement de 68 se développe, de voir le mouvement lui échapper. Mais, si tu veux, il y avait dans ces mouvements quand même issus d'une culture de la gauche classique, même s'ils avaient scissionné, l'idée du désistement républicain était pratiquement jamais remise en cause. Ce qui voulait dire, c'était que sur un certain nombre de choses, la population nous disait, moi j'ai des souvenirs précis, on est d'accord avec vous, on voterait bien pour vous, mais les forces qui peuvent l'emporter au second tour, c'est le PC ou le PS plus tard, c'est pas vous. Donc, la tactique du ni-ni, en fait, où les Verts n'ont pas hésité à refuser parfois le désistement républicain, quitte à faire perdre la gauche, leur a permis d'affirmer leur force politique, ce que le PSU n'a jamais su faire. Si on avait eu l'idée de se dire, bon, ben, on a un désaccord total, on assume et on ne se désiste pas. Je pense qu'on aurait pu jouer un rôle plus important qu'on ne l'a fait à l'époque. Il y a un cas où on a pris nos distances, mais c'est pas au niveau des. au niveau des votes, c'est au niveau du fond. Et si, ça s'est traduit pour les votes. Pardon, là, je suis un peu confus. Quand il y a eu le programme commun imposé par. Que Mitterrand a négocié avec le PC, en position de faiblesse. Le PC était sûr de lui à cette époque et de l'emporter par son importance, son implantation, son lien avec la CGT. Et ce programme a été fait d'un tas de concessions de Mitterrand au PC, qui faisait un programme très, on peut dire, pour prendre des termes actuels, très productiviste, centré sur des choses où les... Comment dire, en opposition, on peut dire, vraiment profonde avec ce que peut être la ligne politique des Verts actuellement sur le côté productiviste, c'est pas le mot qui était employé à l'époque. Et il y a eu une critique radicale faite du programme commun conjointement par le PSU et par la CFDT. Et donc, dans ces négociations du programme commun qui allait donner naissance à des alliances électorales à tout niveau, ça s'est passé entre le PC, le Parti Socialiste et Radicaux de Gauche, c'est-à-dire que dans les élections qui ont suivi, le PSU s'est trouvé laminé, parce que cette force unitaire donnait l'impression que le programme commun allait résoudre tout. Effectivement, il a abouti plus tard à l'élection de Mitterrand. Il y a une fascicule que je dois avoir toujours, une analyse... faite, je te dis, par le PSU, mais qui était commune à la CFDT, sur le fait que le... ça serait bien que je le regarde à nouveau, parce que c'est peut-être lié à ce que tu dis, ce qui fait la continuité entre le PSU et les Verts. Je pense que le programme commun... était essentiellement économique et évacuait tous les problèmes, était centré sur les nationalisations. Et nous, on disait que les... Oui, je crois qu'il y a ça, le PSU se battait pour le contrôle ouvrier. Donc, il pensait que les nationalisations ne résolvaient pas les problèmes des entreprises au niveau de... du choix des productions, des rapports entre le personnel, et que le programme commun était essentiellement quantitatif et non pas qualitatif. Et puis, il y avait aussi une chose qui a été nette, c'est que le programme commun visait à... On retrouve quand même une chose aussi qui est quand même sous-jacente chez les Verts, là, je crois. Le programme commun... pensait que une fois que la présidence de la République allait être arrachée, les forces unies résoudraient tout. Donc le mouvement des masses à ce moment-là, on devait faire confiance. Et nous, on disait à l'époque, avec d'autres, qu'il faudrait peut-être que, pour exiger un certain nombre de choses, qu'il commence à y avoir, qu'il y ait aussi un mouvement démocratique qui soit parfois un peu contestataire et qui pousse un peu plus loin. Et il y a un autre aspect, tiens aussi, qui est alors là complètement dans la ligne commune aux Verts et au PSU, avant 68, je crois que c'est avant 68, il y a eu un colloque à Grenoble sur le contre-plan, c'est-à-dire un contre-plan gaulliste organisé en gros par Mendès France et Rocard, et est sorti à cette époque un livre qui s'appelle « Décoloniser la province ». Le PSU, globalement, était pour un rôle, pour sortir de l'État jacobin et donner un rôle beaucoup plus important aux régions. Donc, c'est là, et là, ça remonte, je te dis, je crois, en 1967. Donc, c'est un point très commun qui fait qu'on peut se retrouver totalement dans la vision des Verts sur le poids des régions. Et moi, ce que j'avais écrit une fois aussi, c'est que je regrette J'avais écrit un texte, je pourrais peut-être te retrouver. Je dis qu'un arbre qui n'a pas de racines est fragile, la racine profonde est fragile face aux tempêtes, et que les vers devraient davantage assumer qu'ils ont des racines profondes dans le PSU, c'est qu'ils ont une histoire, même si c'est un mouvement différent. Je pense que c'est les Verts, contrairement à d'autres forces politiques, n'ont pas assez de formation et n'ont pas, pour les gens qui les rejoignent ou et même pour leur cadre, assez de culture historique et assez d'enracinement dans toute une histoire qui remonte avant l'existence officielle des Verts.